port à Gruyère pour évoquer cet instrument si particulier, la lira da braccio. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire, Jean-Luc Rider.
Bonjour, vous avez visité le château?
Ouais.
Vous avez vu la construction de l'instrument de musique là-haut aussi?
Oui. Non.
Non? Toi, t'as vu c'est... À l'extérieur, là, ils faisaient un instrument.
Oui, on a vu.
Ça vous a plu? C'était un violon?
Oui, de quoi?
Oui, est-ce que vous connaissez cet instrument qui a été fabriqué là-haut?
Oui, c'est le violon.
C'est un violon. C'est en fait un très, très ancien violon du Moyen-Âge. Vous aimez le Moyen-Âge?
Oui.
Oui.
Alors, ceux qui disent non, ils n'ont pas aimé la visite du château alors.
Ouais, ça va, bof.
C'était un peu long.
Non, c'était cool.
Moi, ouais, je trouve que c'était trop
cool.
Bien.
C'était
long. C'était drôlement bien.
C'était surtout, mais c'était long.
Très bien, vous venez d'où?
De Belfort.
Merci. Une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
Ils sont merveilleux. Votre micro-trottoir à Gruyère, c'est des micro-pavés d'ailleurs, il n'y a pas de trottoir tellement.
Voilà, exactement, des très jolis pavés anciens et des élèves d'une classe fribourgeoise qui venaient visiter le château. J'ai un peu trahi la lira da braccio qui était un instrument de la Renaissance et non pas du Moyen-Âge comme les autres pierres que l'on voit dans ce château.
En même temps, cette visite était bien un peu longue, c'est comme l'histoire. Hein. L'éternité, c'est long, surtout sur la fin, comme dit l'adage. Oui, cet instrument d'ailleurs si particulier qu'aujourd'hui vous allez vous entretenir avec un interprète dont on est un peu en peine de le nommer. C'est quoi, un bracciste, un lira da bracciste, un liriste?
C'est un violoniste à l'origine, comme il va nous l'apprendre, Frédéric Martin, l'un des rares virtuoses de cet instrument qui joue avec différents ensembles et notamment avec cet ensemble Il Ballo qui était invité pour un concert dans ce 11e atelier de musique ancienne de Gruyère.
Tel qu'il a eu lieu du 18 au 25 août dernier, David. Et d'abord un mot avec le chef de l'ensemble?
Avec le fondateur de ce ballo, le luthiste d'origine brésilienne, Leonardo Loredo de Sá. Leonardo Loredo de Sá, avec votre ensemble Il Ballo, vous jouez beaucoup de musique de la Renaissance. Est-ce que votre nom a une influence sur le fait que vous vous intéressiez à l'époque de Leonardo da Vinci?
Je ne sais pas. C'est plutôt mon instrument qui m'amène à ces répertoires, hein, le luth.
Un luth Renaissance alors.
Un luth Renaissance. Et ce soir, pour ce programme, je joue avec un instrument qui est vraiment du début du XVIe siècle. Pas un instrument d'époque, bien sûr, mais une copie d'un instrument du XVIe siècle. Ça veut dire un luth à six cœurs, exactement, pour ces répertoires-là.
Un répertoire qui est celui de la cour de Mantoue à cette époque-là, à l'époque où Leonardo en faisait partie.
Et c'est le répertoire de la fin du XVe, début du XVIe siècle. Exactement en 1500, Leonardo da Vinci, il est passé par Mantoue en allant à Venise. Il s'arrêtera à la cour de Isabelle d'Este qui lui demandera de faire un portrait de sa personne. Et ce portrait est fait, c'est un dessin, c'est un qui reste au Louvre, c'est un fameux portrait buste de Isabelle d'Este. Voilà, il n'est pas resté longtemps.
Le choix des instruments, est-ce qu'il est dicté absolument par la partition ou c'est un ensemble que l'on retrouve beaucoup à cette époque-là, à cet endroit-là?
Le choix, ce n'est pas, on n'a rien indiqué sur la partition. C'est les instruments qu'on sait qui étaient joués dans les cours à cette époque-là. Le luth, la viole, le clavecin. Aujourd'hui, nous avons un virginal, mais un instrument clavier, les flûtes à bec. Et surtout, un instrument qui était très apprécié à l'époque, c'était la lira da braccio, qui nous avons le récit de que cet instrument était fort apprécié dans les cours et pour ses répertoires.
Un répertoire qui comprend des danses, votre ensemble s'appelle Il Ballo, des pièces chantées sacrées aussi, d'après ce que j'ai entendu.
Non. Il y a une pièce qui amène à la fin, mais c'est un répertoire profane. Ce sont des poèmes même de Pétrarque, par exemple, très important poète italien. Et la majorité des pièces sont de Frottol, c'est un style bien caractéristique de cette époque. Des pièces chantées accompagnées par les instruments mélodiques, viol, flûte, vielle, ou par les instruments harmoniques, le luth, la lyra et le virginal. Pour enrichir le programme, comme nous avons ces instruments, tous ces instrumentariums, on propose aussi quelques danses pour faire aussi reposer la chanteuse, parce qu'elle a droit à ce repos. Parce
qu'on ne dansait pas sur les frottoles, ce n'était pas des pièces destinées à faire danser l'assistance.
Non, je ne crois pas. Je ne peux pas être très précis là-dessus, mais je ne crois pas. C'est la musique chantée, de la polyphonie, c'est la musique savante. C'était vraiment pas la musique de danse. La musique de danse, c'est vraiment spécifique. Là, non, je crois pas.
L'orchestration que vous avez faite, entre guillemets, bien sûr, on est un peu anachronique en parlant d'orchestration, pour ces morceaux, la façon de répartir les voix dans les instruments, c'est vous-même qui avez fait cette restitution, Leonardo Loredo Dessa.
Oui, c'est nous, c'était un peu moi, et ça, c'est un vécu de cette instrumentation au XXe, XXIe siècle. On ne sait pas comment c'était fait. On a, par exemple, on sait qu'il était accompagné par le luth, ça c'est sûr, parce qu'il y a des pièces qu'on retrouve dans d'autres recueils avec une tablature de luth que le soprano, la partie de soprano et la tablature de luth. Ça veut dire qu'on sait que cela, le chant était accompagné forcément par le luth. Mais l'instrumentation, sincèrement, c'est de notre vécu de musicien du 20e, 21e siècle, influencé par 40 ans de recherche et de travail sur la musique ancienne. On ne peut pas dire exactement comment c'était fait à l'époque. On n'a pas de tous ces registres.
Vous êtes aussi à pied ou vous...
Je suis à pied, oui. D'accord, donc je vous suis.
Je suis un peu familier des lieux de l'atelier de musique ancienne parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des séries d'émissions.
D'accord.
C'est toujours passionnant d'avoir le bruit des luthiers, les
avis à
la fois des musiciens et des facteurs. Vous connaissiez déjà l'endroit? Vous étiez venu déjà à Gruyère, Frédéric Martin?
Non, je ne connaissais pas du tout cet endroit. Vous allez m'expliquer ce que c'est exactement.
Ah, c'est un village mondialement connu grâce à la culture du lait, j'allais dire.
Oui, ben ça, oui, ça c'est clair. On en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Moi, j'étais même jamais passé à Gruyère, même pour du tourisme.
C'est un peu un point de passage obligé des touristes qui viennent de loin pour voir la Suisse.
C'est d'accord.
Assez typique. Et vous-même, vous êtes prêt à parler de...
Alors, moi, j'habite Dijon, donc moi, je suis de l'union d'adoption. Alors. J'ai souvent coutume de dire qu'il y a une chose dont j'étais certain quand j'étais au collège, c'était du métier que je ne voulais pas faire. Je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais s'il y a un métier que je ne voulais pas faire, c'était la musique. Parce que j'avais comme modèle, j'étais déjà flûtiste, donc, et à l'école, donc au collège, on apprenait la flûte à bec. C'était obligatoire dans les programmes. Et c'était tellement épouvantable, ces sifflements horribles, etc. Le pauvre professeur qui avait une formation accélérée pour faire ça, connaissait à peine les doigtés, etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez difficile, peu agréable, et justement, qui n'était pas du tout dans l'amusement. Donc je m'étais dit... Et pour moi, la musique professionnelle, c'était l'enseignement. Je ne voyais pas tellement... j'avais aucune autre ouverture de ce... d'un autre type, je dirais. Voilà. Donc, et puis, petit à petit, en fait, c'est vraiment après avoir passé le bac, j'ai eu l'occasion de faire un stage et j'ai rencontré aussi un copain qui était en classe avec moi, qui était aussi flûtiste, avec qui on a beaucoup, beaucoup discuté, parlé, échangé et travaillé, etc. On a passé le bac ensemble, bac musique, etc. Et puis, c'est lui qui m'a orienté vers un stage où j'ai découvert effectivement la personne qui allait être professeur de violon, avec qui j'ai fait beaucoup, beaucoup de... Enfin, j'ai fait toutes mes études, je dirais, enfin 6 années à Genève, d'ailleurs, en Suisse, et qui m'a vraiment appris énormément, énormément de choses.
Alors c'est seulement après le bac que vous avez commencé à frotter des cordes?
Réellement, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que bon, j'avais commencé vers l'âge de 14 ans, mais sans grande assiduité. Puisque j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir avec la flûte à bec, le violon, ça m'amusait beaucoup, mais je n'avais pas un professeur génial, enfin, j'accrochais pas énormément, quoi, disons. Au niveau des répertoires surtout, je dirais. Donc je faisais ça parce que ça m'amusait, j'ai toujours aimé cet instrument, mais voilà, mais la musique je la faisais vraiment avec la flûte, et puis c'est vraiment plus tard, où ce fameux stage dont je parlais, je devais aller le faire en flûte à bec, et ce copain avait son professeur qui était aussi à Lyon, et qui m'avait dit, mais Frédéric, si tu fais déjà un peu de violon... va le faire en violon. Il y a dans ce même stage une jeune professeure tout à fait extraordinaire, et je lui dis bah pourquoi pas. Elle me dit, des flûtistes il y en a beaucoup déjà à cette époque là je me dis bah pourquoi pas, parce que ce qui m'intéressait moi c'était faire de la musique, voilà. Et puis voilà, on a passé un marché avec mes parents qui m'ont dit, écoute, pendant un an tu peux effectivement essayer de faire que de la musique, à condition de faire des études de musicologie, ce que j'ai fait à Lyon, quoi. Voilà.
Frédéric Martin, comment est-ce qu'on arrive à jouer de la lira da braccio, un instrument que la plupart des gens ne connaissent pas?
Oui, ça c'est une très très bonne question. C'est vraiment une question de hasard. À Genève, lors de mes études, j'avais un professeur que j'ai aussi beaucoup beaucoup apprécié, qui s'appelle Paul Van Nevel, qui a un ensemble qui s'appelle La Suelgas, et qui venait nous apprendre la musique du Moyen-Âge. Donc on faisait de la paléographie, on chantait des week-ends entiers, je n'avais absolument plus de voix à la fin. Mais je me suis régalé à travailler avec ce musicien. Vraiment, là aussi, je pense que c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué sur la dynamique, sur beaucoup, beaucoup de choses. Même si par la suite, j'ai moins fait de musique, vraiment, je dirais, plus archaïque, plus ancienne. Et à un moment donné, il a eu comme projet de monter le premier Orfeo qui n'a jamais été écrit, enfin, qui n'a jamais été écrit, dont on a gardé la trace, qui est celui de Poliziano, donc 15e siècle, dont il ne reste, en fait, ce qui était une fable en musique également, mais il ne reste que le livret. Et il avait fait un travail gigantesque d'études sur toutes les frottoles. Il en a peut-être lu un millier de frottoles. Et par cette technique qu'on appelle le contrafacta, c'est-à-dire que les frottoles, en fait, quand on parle de frottoles aujourd'hui, on pense immédiatement musique. Mais la frottole, c'est avant tout une structure poétique. Donc il y a plusieurs types de frottoles, les stramboto, les odes, etc.
C'est une petite forme un peu qui va mettre en analogie avec le madrigal.
Absolument, oui, c'est exactement dans cette famille-là. Alors ensuite, on sait que on constate que le madrigal est une forme poétique beaucoup plus relevée, beaucoup plus savante, et donc la musique elle est souvent dans un contrepoint beaucoup plus élaboré, et les frottoles comme les odes ou les stramboti sont des formes plus légères. Voilà, et selon le type de poésie, il semble qu'on utilisait donc des structures poétiques différentes. Mmh. Et donc ça lui a permis de mettre en musique tout le texte de Poliziano, puisqu'il était écrit selon ses... Il avait juste à repérer quelle structure poétique fonctionnait, et donc on a fait ce projet-là. Et évidemment, dans cette... ça, je ne saurais pas dire comment... Enfin, il y a des textes qui parlent de ça. On sait que le rôle-titre de cet Orfeo était tenu par un chanteur qui s'appelait Baccio Golino. Et ce fameux Baccio Golino jouait la lira da braccio. Et on sait qu'il chantait et parlait en s'accompagnant de la lira da braccio. Donc, moi, je faisais déjà donc de la vielle, etc. Donc, il m'avait demandé, est-ce que ça t'intéresserait de faire de la lira da braccio? Je lui dis, c'est quoi? Ça fait mal, etc. Donc, et il m'a expliqué, et puis il a fait faire à Genève deux instruments comme ça, et deux de ses élèves avons joué avec lui, donc, et puis on s'est piqué en fait au jeu en trouvant que l'instrument avait des possibilités assez incroyables au niveau harmonique, puisque c'est un instrument à cordes frottées, aigu, mais destiné à faire de l'harmonie, quoi. Donc nous, on a toujours rêvé de pouvoir, avec le violon, faire de l'harmonie. Ça a toujours été un rêve, même des compositeurs. Mm-hmm. Celui qui est peut-être arrivé le mieux, c'est Bach, avec ses sonates et partitas. Mm-hmm. Mais bon, le violon n'est pas du tout un instrument facile pour jouer l'harmonie, alors que la lyra, c'est vraiment fait pour ça.
Un peu à la manière de la viole de gambe, alors qui est aussi plutôt destinée avec beaucoup de cordes, avec un accord à faire des grandes...
Voilà, exactement.
Des grandes harmonies, des grands accords.
Tout à fait. La viole qui a le même accord qu'un luth. Donc avec cette juste restriction qui est due à l'archet, c'est qu'autant avec les doigts en cordes pincées, on peut choisir les cordes qui vont former un accord audible. Avec l'archet, il faut absolument que toutes les cordes qui se touchent, qui soient conjointes, forment le bon accord.
Ah, il y a la main gauche tout de même qui peut...
Oui, la main gauche fait des accords, mais il faut que toutes les cordes, soit on les choisit avec la main droite, quand c'est ce qu'on appelle le puntado, avec corde après corde, c'est-à-dire on peut en sauter une qui ne serait pas dans l'harmonie. C'est pas possible avec l'archet, hein. Il faut qu'elles soient conjointes. Voilà. Et donc, on a... Grâce à Paul Van Nevel, j'ai pu toucher cet instrument. Mais on s'est vraiment tellement amusé avec ça qu'on a décidé, il y avait une tournée, il y a eu un disque, il y a eu beaucoup de choses. Du coup, on a eu le temps de vraiment travailler cette question. Et donc, en fait, les instruments que nous avions n'étaient pas extraordinaires. Et on en a fait faire par un luthier belge que connaissait un des musiciens qui était dans l'ensemble à cette époque-là. Et qui est l'instrument, par exemple, que je joue maintenant, et qui est vraiment un instrument que je trouve extraordinaire. Alors,
qui est un instrument imité, je crois que Christian Marot m'en a parlé, d'un ancien instrument gardé au musée des instruments de Bruxelles.
Exactement, c'est exactement ça. Il a une très bonne mémoire, Christian. Il l'a vu, on a travaillé sur cet instrument avec lui par la suite. Ah oui, voilà.
On arrive.
Salut
Dieu. Absolument. Et donc, en fait, c'est l'instrument d'Orphée, puisqu'il s'accompagne dans la plus ancienne musique qu'on connaît de lui. Il a été recréé, il s'appelle d'ailleurs Lyra, pour que Orphée s'accompagne lui-même. C'est un grand challenge.
Ah ben, c'est un grand challenge. Bon, en plus, bon, c'est vraiment amusant, parce que c'est vraiment l'instrument. Ce qui est important de comprendre, je pense, quelque part, c'est que c'est l'instrument qui accompagne la voix sous toutes ses formes. Et probablement d'abord la voix parlée, la voix d'un orateur. Et puis, après, la voix chantée. Hein, Ronsard, il dit vraiment, il explique dans son art poétique qu'il est beaucoup mieux de chanter ses vers, les vers saphiques plutôt, mais de les chanter à haute voix, quelques voix que puissiez avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas important la qualité de la voix, mais par contre, c'est important de musicaliser certainement la poésie, quoi. Et la lyra accompagne ce type de poésie, ce type de déloquence. Et c'est ce qui me fait dire que, certainement, vu que ce sont des poètes qui s'accompagnaient, c'est pas un instrument non plus, logiquement, très élaboré au niveau de la technique, a priori. Là, ça devient plus compliqué parce que c'est vrai que c'est pas très commode. Ça reste difficile d'être tout le temps juste sur ce type d'instrument. Mais certainement, les accords doivent être, je vous dis souvent, proches de ce qu'on appelle la guitare sommaire, c'est-à-dire quelques accords pour. Alors voilà. Alors aujourd'hui, on a tendance à intégrer la lyra dans des ensembles, etc. Parce qu'on a très peur aussi d'avoir d'abord une harmonie à l'aigu. Parce qu'on sait aussi qu'à cette époque-là, ces instruments-là accompagnaient mieux les voix graves, a priori, puisque, et comme les Grecs, comme la musique donc antique, l'accompagnement se faisait à l'aigu.
Ce qui est le contraire de ce qui s'est fait après avec la basse continue.
Exactement, exactement.
On a révolutionné, on a tourné, inversé le sens de l'harmonie d'une certaine façon.
Oui, certainement. Il y a eu quelque chose de très étonnant, mais qui était en germe depuis très longtemps. Et effectivement, d'ailleurs, la lyra, donc dans cette forme-là, a disparu, on va dire, à la fin du XVIe siècle, peut-être, probablement en France d'ailleurs, ramenée par le fameux Léonard de Vinci, qui en était un professeur, paraît-il, émérite.
Paraît-il, oui, il y a beaucoup de bruit, de rumeurs à ce sujet, mais
oui,
Christian
oui.
Rome disait qu'on n'a peut-être pas la certitude documentaire qu'il en jouait vraiment lui-même.
Alors, effectivement, moi, j'ai jamais lu quoi que ce soit qui le dit. On sait qu'il en a fabriqué une, en argent aussi, avec des matériaux un peu bizarres, a priori. c'est vraiment visiblement ce genre de personne totalement étonnante qui avait des talents multiples, parce que on a des chroniques où on raconte, on rapporte qu'il était échangé dans les cours entre les Est et les Sforza, etc., je crois, non pas pour ses qualités de peintre, mais pour ses qualités d'improvisateur. Il improvisait des vers en latin, donc c'était déjà encore autre chose. Et probablement qu'il devait jouer avec la Tirada Braccio. Il est probable que ce soit lui d'ailleurs qui ait appris ou qui ait enseigné justement ce fameux Baccio Golino.
Qui est celui qui a joué l'Orfeo de Poliziano.
L'Orfeo Poliziano. Bon, je ne me souviens plus exactement en fait, mais voilà. Il y a eu des rapports assez étroits entre en tout cas cet instrument et Léonard Vinci. Voilà, donc c'est un instrument qui est vraiment important pour et qui est donc improvisé aussi. Hein. Et on a presque rien, comme on n'a pas du tout de littérature écrite pour la lyre de Braccio.
Dernière question avant que je vous laisse rentrer. Non, vous n'avez pas trop froid, ça va ?
Ça va.
Frédéric Martin, est-ce que vous-même vous avez l'habitude de jouer de la lyre en déclamant ou en chantant en même temps ? Ça vous est arrivé ?
Alors oui, ça c'est. Enfin, effectivement, du coup, moi, ça m'a vraiment intéressé, d'autant que j'ai eu l'occasion d'entendre des gens, des chanteurs. En l'occurrence, j'ai le souvenir d'un collègue qui était luthiste et orbiste et qui s'est mis à chanter en s'accompagnant lui-même. Et quand je l'ai entendu chanter, c'est Marco Horvat, en fait, peut-être que vous le connaissez, oui. Et pour moi, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, on ne peut jamais aussi bien chanter, aussi bien s'accompagner que si on le fait soi-même, quoi. Et je me suis dit, essayons, voilà, fort de ce que je disais de Ronsard, voilà. Donc effectivement, moi je fais aussi quelques spectacles, des concerts, des spectacles, où je chante aussi en m'accompagnant à la lyre da Braccio. On a fait aussi des expériences avec une autre amie qui aussi joue la lyre da Braccio, qui chante très bien, donc elle de chanter par exemple dessus, de faire de l'harmonie par exemple sur le ténor, moi de chanter la basse et elle de faire de l'harmonie en m'accompagnant, en tournant autour de l'alto, etc.
Donc à deux voix et puis avec les deux accompagnements.
Et les deux lyras, ouais. Donc oui, je pense que c'est important, ne serait-ce que pour sentir l'intérieur de l'instrument, quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup dans ce sens-là, quoi. Ouais.
Quelques extraits de répétition de cet ensemble Il Ballo venu de France dans cette église de Gruyère qu'on peut aussi appeler
l'église Saint-Théodule, c'est le patron de cette bourgade du sud du canton de Fribourg.
Qu'il soit ici honoré, donc on quitte ce lieu-là pour aller dans un autre lieu à Gruyère.
Oui, avec Frédéric Martin toujours, qui était donc le joueur de lyra de braccio dans l'ensemble. On entendait aussi la voix de la soprano Luanda Siqueira et celle de Leonardo Loredo de Sa, qui est le chef et le luthiste d'Il Ballo. Et donc, pour la présentation de l'instrument, c'était le 24 août dernier. On retrouve tout ce monde avec aussi Philippe Moterio et l'autre luthier Christian Roux qui nous a accompagnés toute cette semaine.
Tout ce petit monde à votre micro, David Mestri.
Oui, pour lui, parce qu'elle est censée être un instrument magique hein, qui soigne les afflictions de notre terre. Hein. Ben oui, parce que c'est le seul instrument qui se fait l'écho de l'harmonie des sphères. On parle beaucoup de l'harmonie des sphères, mais qui les a entendus ? Qui a entendu cette harmonie-là ? Personne. Elle est inaudible pour les humains.
Pourquoi plus cet instrument ?
Parce que c'est un symbole. C'est le symbole de la lyre antique avec ses sept cordes, etc.
Les sept planètes, etc.
Voilà. Et on a rêvé, ce que je disais, on a fantasmé un peu cet instrument-là, avec une erreur. On n'a jamais compris pourquoi, une erreur antique, enfin une erreur de la Renaissance, qui a assimilé le plectre à l'archer. Et il faut attendre assez tard on a corrigé les choses à la fin de la Renaissance, je crois. On s'est dit, mais non, l'archer, c'est un archer, et le plectre, les anciens instruments étaient joués au plectre.
Alors que les Grecs avaient des archers, donc c'est ça que vous dites, Frédéric Martin.
Alors, on a cru que... ils avaient des archers aussi, mais ça, on en est moins sûr.
Je m'inscris en faux complètement.
ce que l'on voit, on voit toutes les iconographies de lyre, c'est toujours avec encore pincé. Ils avaient des archers, ils avaient cette espèce de morceau de bois dans la main, ou je sais pas en quoi c'était.
Les cordes frottées ne rentrent en Occident qu'autour de l'an 1000, avant il n'y a rien. Elles étaient inventées depuis pas très longtemps, très à l'Est, mais depuis pas si longtemps que ça.
Donc, fait qu'ils ont confondu les choses voilà.
C'est le terme qui définit l'archet, peux dire plectrum, par exemple, pour définir un archet, ou arculum, je ne sais pas ce que tu peux dire, mais là, il peut y avoir une confusion, mais il n'y a pas de confusion sur le fait que la lyra antique était jouée à plectre ou avec les doigts, et que la lyra d'abraccio est jouée à l'archet, il n'y a pas de confusion là-dessus.
La seule chose que je voulais dire, c'est que le fait qu'on voit des plectres assez longs, est-ce que c'est ça qui a induit une erreur au niveau, une confusion quelque part ?
Mais vous parliez hier, Christian Rowe, de vihuela, qui est justement un des instruments qui peut être
joué les deux, voilà.
Qui est un instrument à la fois.
D'Amano d'Arco, absolument. Oui, c'est la même structure. Ceci dit, pour l'Antiquité, il n'y a aucun doute, il n'y avait pas d'archer. C'est le fait qu'ils appellent ça la lyra qui a prêté à confusion. Et aussi, dans les premiers traités qui parlent des origines de l'archer, l'archer est une chose tellement naturelle, tellement installée dans la société, que si Adam et Ève, c'est je crois Rousseau qui dit ça, si Adam et Ève avaient dû jouer d'un instrument, c'était forcément d'un instrument archer. Donc à partir de ce moment-là, tout est possible. Après, faut revenir aux données un peu plus
scientifiques.
Mais c'est une certitude, les Grecs ne connaissaient pas l'archet ni les Romains.
Mais à la Renaissance, il y a plusieurs instruments ou plus tard qui reprennent ce nom de lyre. Il y a la lyra viol chez les Anglais, qui est une
lyra viol, c'est vrai.
C'est
une petite viol de gamme, je crois.
C'est une grande lyre.
Le lirone, c'est la base de lyra d'abraccio. Voilà. Qui joue d'agamba et qui a beaucoup de cordes aussi, un chevalet très plat, etc. Donc ça, c'est lié directement à la lyra. En fait, la lyra d'abraccio, c'est le dernier avatar de la vielle médiévale. C'est la vielle médiévale sous sa forme gothique flamboyante. Voilà. Point à la ligne.
Le terme de lyra est quand même un terme qui est associé à un son continu, un son tenu. Parce qu'on trouve aussi, chez Virdunc, une image de vielle à roues. Qui s'appelle lyra avec un grec.
Plus tard, lyra mandicorum, voilà. On trouve aussi, etc. Donc, c'est un terme un peu générique aussi.
Comme sitar à l'origine, mais kithara, parce qu'on voit de temps en temps aussi Orphée jouer de la kithara, non, dans le texte grec.
Je crois que la kithara, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que la kithara, c'est le nom grec de la lyra romaine, non?
Je pensais aussi quelque chose comme ça.
Et après, mais c'est compliqué ces problèmes-là, parce que sur le psautier de Stuttgart, il y a des grandes guitares qui sont représentées, et dans le texte, ce sont les kitaras. Dans la Bible elle-même, c'est des traductions qui viennent des textes d'origine, repris, chacun reprenait. Nebel devient kitara, kitara devient, etc. On s'en sort plus, il faut être très...
très méthodique, prendre de la distance, bien aligner les documents et mettre aussi les datations les unes en face des autres, les origines, qui appelle quoi, comment, etc. Et petit à petit, on y voit clair. Mais comme ça, à discuter à bâton rompu, c'est un problème à se cogner la tête contre les murs.
Non, mais la terminologie, voilà. c'est vraiment. D'ailleurs, c'est assez passionnant, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a, par exemple, ces compagnies de sonadori di lire en Italie à la Renaissance. Et on peut se poser la question si effectivement ce sont des joueurs de lira d'abraccio. Et là aussi, c'est une pure supputation, ils sont 6 en général, 5 ou 6. Or, on sait qu'il y a des groupes, ce type de groupement de musiciens existait, mais pas pour jouer la lyre, hein, puisque la lyre, a priori, c'est un instrument soliste.
Donc, sonatori, on penserait à du souffle, non aussi.
Non, sonatori, ça veut dire le musicien, le joueur d'instrument.
Oui, c'est ceux qui sonnent les instruments, voilà. Donc qui jouent les instruments. Mais ce qu'on peut penser, c'est que simplement lire ou lironi, etc., c'est la terminologie noble pour les instruments à cordes frottées.
Tout à fait.
Peut être juste ça, quoi.
Tu penses
ça aussi, oui.
Non, mais une guitare, c'est quoi? C'est une gratte. Une gratte, à l'origine, c'est le nom de harpe. C'est la harpe. Je veux dire, on peut tisser tant qu'on veut.
Généalogie difficile.
Oui, généalogie, en tout cas, faut très prudent. Non, c'est possible, mais il faut y aller très doucement. Très doucement.
Mais la taille est grande, mais la tessiture, c'est celle d'un violon.
Et la forme est très proche.
Il est pas, enfin, à part les deux cordes, ces deux bourdons, donc hors du manche, qui descendent une carte au-dessous du violon, quoi. Mais c'est la même tessiture que le violon, c'est le même accord. Bon, ça, c'est vraiment effectivement le moyen terme entre la vielle, avec sa façon de positionner les chevilles notamment. Et l'accord du rebec, mais qui va devenir violon, etc. Enfin,
c'est un rebec que vous jouez aussi dans le concert.
C'est une petite vielle, ça, qui n'est pas très, comment dirais-je, historique dans le sens. Elle est un peu, l'image est beaucoup plus archaïque. Voilà, mais c'est.
Qu'est-ce qui est plus commode pour les chevilles, les avoir dessous comme pour cette vielle ou dessus comme pour la lyre, ça change.
C'est ni commode ni l'un ni l'autre en fait, grosso modo. Le problème des avoir dessous avec la lyre, c'est que la corde elle traverse le cordier et elle vient s'accrocher là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de frottements et ça pose des problèmes d'accord aussi. Ben justement, avec Christian, on a énormément recreusé la tête pour pouvoir éliminer l'angle des cordes par derrière. Parce que pour l'accord, c'était impossible. C'était vraiment très difficile. Voilà. Quand la cheville elle est plantée par-dessous, c'est-à-dire qu'elle pointe sur le dessus, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'angle sur le sillet. À moins que la tête soit inclinée, comme sur un luth, là, ça devient possible. Et sinon, justement, le contraire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'angle. Du coup, elle a tendance à sauter. Et finalement, l'implantation des chevilles latérales est plus performante. Quoi.
Quelques accents de ces répétitions données donc dans le cadre de cet atelier de musique ancienne de Gruyère, 11e du nom, auquel vous avez assisté, David Mestri, pour nous, pour Musique en mémoire. Qu'est-ce qu'on va écouter pour se quitter, avant de revenir à Gruyère demain, bien sûr?
Toujours des musiques du temps de Léonard de Vinci, et toujours avec la lira d'abraccio comme accompagnement principal de la voix, celle de Luanda Siqueira, encore une fois, dans Voi che passate de Francisco Varoter, et puis ensuite, on quittera la répétition complètement pour une anthologie du berceau de la Renaissance de l'ensemble Cyrinou.
Thank you. Thank you.
Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. Demain, direction Gruyère, avec vous David. De quoi sera-t-il question demain?
Demain, on retrouvera Frédéric Martin, le joueur de Lira da Braccio, et Christian Rau, qui a fabriqué l'instrument.
Très bien, merci beaucoup de votre visite ici, après ce 11e atelier de musique ancienne de Gruyère. Merci à Didier Rossa pour sa réalisation de Musique en mémoire cette semaine. À Isabelle Watson pour son assistance à la production. Oui, cette émission, c'est une proposition de Jean-Luc Rider. Vous écoutez Espace 2, il est 11h.